en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Dans cette émission, nous poursuivons notre série sur l'histoire des fauteuils de l'Académie française. C'est notre 11e émission avec Mireille Pastoureau, qui chaque fois qu'un nouvel académicien est élu à l'Académie française, organise non seulement une exposition au sein de la bibliothèque de l'Institut, mais aussi établit un énorme document donnant des précisions sur chacun des titulaires de ce fauteuil. Bonjour Mireille Pastoureau.
Bonjour Hélène.
Merci de nous rejoindre à nouveau dans ce studio pour parler de ce 30e fauteuil qui est donc celui que va occuper désormais Madame Danielle Salnave et elle succède donc à 18 personnes. C'est un fauteuil sur lequel il y a eu peu d'occupants.
Même un petit
finalement.
Peu moins, elle est le 16e titulaire
elle est le 16e.
Du fauteuil.
Ah
oui,
bon.
Tout
alors,
à fait.
Vous voyez.
Oui, oui. Oui, selon les fauteuils, voilà, il y a plus ou moins de membres. Certains, voilà, portent chance. Davantage, il vaut mieux qu'il y ait peu de membres.
Ça veut voilà, dire ça que prouve qu'ils ont une longévité.
Voilà, exactement.
Alors, nous souhaitons une très longue occupation de ce fauteuil à Madame Danielle Salnave, qui sera reçue sous la coupole le 29 mars 2012. Alors, Mireille Pastoureau, du fond de votre très riche bibliothèque, vous avez sorti les documents. Quel est le premier occupant de ce fauteuil au moment de la création de l'Académie ?
Alors le premier, il est connu sous le nom de Racan. C'est un poète du XVIIe siècle. Il a été admis à l'Académie dès 1634, dès la fondation de l'Académie. Il est le 28e membre de l'Académie. Vous savez qu'il n'y a que 40 membres, donc il a été le 28e admis. Son prénom était Honorat. Il était Honorat de Bueil, seigneur de Racan. Il appartenait à la noblesse tourangelle. Son château était moitié en Touraine, moitié en Anjou, disait-il. Il l'a reconstruit et il a eu le droit de l'appeler La Roche-Racan, de son nom. C'était auparavant La Roche-aux-Majeur. Et on constate qu'à cette époque, les premiers titulaires des fauteuils résidaient énormément, en réalité, dans leur province. Ils n'habitaient pas Paris, ils venaient de temps en temps. Donc lui aussi était un véritable gentilhomme campagnard.
Et il avait rencontré Malherbe, donc ça a
voilà.
été sa grande
Exactement.
Rencontre.
Exactement. Voilà, tout à fait, parce qu'il avait un goût personnel pour la poésie, il faisait des vers depuis toujours, et le grand événement de sa vie fut sa rencontre avec Malherbe.
Quelle est son œuvre la plus connue ?
Alors, il y a un poème que l'on lit encore de nos jours pour les départs en retraite. C'est assez amusant de voir que ce poème a traversé les siècles. Ce sont les stances sur la retraite qui est très connue. Tircis, il faut penser à la retraite. La course de nos jours est plus qu'à demi-faite. L'âge insensiblement nous conduit à la mort. Nous avons assez vu sur la mer de ce monde errer au gré des flots notre nef vagabonde. Il est temps de jouir des délices du port.
Bien,
c'est
alors,
charmant et très compréhensible aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, c'est tout à fait amusant. Le deuxième occupant de ce fauteuil, donc, c'est l'abbé François Séraphin Régnier des Marais. Alors, il faut dire qu'il y a toujours eu à l'Académie des hommes d'Église et la tradition se poursuit.
Exactement. Et alors, lui, il avait en plus la qualité d'être grammairien. Il connaissait des langues étrangères, ce qui était très apprécié à l'Académie. On aimait beaucoup les traducteurs, ce qui aidait aussi à préciser la langue française,
bien sûr,
de faire des traductions. Et il est devenu le troisième secrétaire perpétuel de l'Académie française en 1683. Il a participé à la rédaction du dictionnaire et il a rédigé lui-même une grammaire tout seul, si je puis dire. À l'origine, quand l'Académie avait été fondée, il était prévu qu'elle prépare également une grammaire et puis elle n'a pas eu le temps, elle était trop occupée par le dictionnaire, alors il a lui-même fait une grammaire.
Voilà. Alors pour les latinistes, on dira qu'il a aussi traduit les deux livres de la divination de Cicéron. Ça peut toujours servir. En tout cas, on le surnommait l'abbé Pertinax.
Oui, parce qu'il était un petit peu querelleur et
Régnier des
Marais. Il aimait la dispute, oui.
Régnier des Marais aimait la dispute. Alors, le troisième occupant de ce fauteuil, Bernard de Lamonnoy.
Voilà, c'est un poète et un philologue. Et alors, lui aussi était provincial, il était dijonnais. Et il a habité Dijon jusqu'à l'âge de 66 ans. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est venu à Paris et qu'il a été élu à l'Académie. Il a été le premier lauréat du prix de poésie de l'Académie française. L'Académie a créé un prix de poésie en 1671 sur l'abolition du duel. On sait que les duels occupaient beaucoup de place au XVIIe siècle. Et Voltaire considérait que ce poème était un chef-d'œuvre.
Bon,
il a eu énormément, de prix. Et Madame Carrère d'Encausse, dans son dernier livre lumineux sur l'histoire de l'Académie, rappelle qu'il a triomphé 5 fois. Et le bruit a couru que les juges lui avaient fait prier de s'abstenir désormais du concours.
Ah oui, sinon il remportait tous
voilà,
les prix.
Donc, monsieur
de Lamennois, veuillez rester chez vous. Alors, le 4e, Michel Poncet de la Rivière. Donc là, maintenant, on aborde le 18e,
oui,
n'est-ce pas,
oui,
élu
oui.
en 1728.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un homme d'église. Comme vous l'avez dit, la religion scandait la vie académique et il était de tradition que les prélats soient même majoritaires, dit Hélène Carrère d'Encausse, à l'Académie dans la première moitié du XVIIIe siècle. Sans que cela soit précisé par les statuts, les prélats étaient majoritaires au début du XVIIIe siècle et après il y a eu un renversement. C'est très intéressant cette évolution de l'Académie française parce qu'ils ont été supplantés par les philosophes. Les Lumières ont fait éruption à l'Académie. Et c'est assez étonnant, on chassait la religion, voilà.
Alors celui-ci, Michel Poncet de la Rivière, était évêque d'Angers. Aujourd'hui, nous avons un évêque aussi à l'Académie française, qui est l'évêque d'Angoulême, Monseigneur d'Agen.
Oui.
Alors cet évêque, eh bien, il a été suivi d'un autre personnage,
oui.
Jacques Ardion. Qui lui était historien.
Oui, il était historien. Et alors, moi j'ai un petit faible pour lui parce qu'il était aussi bibliothécaire. Il était garde de la bibliothèque du roi à Versailles, sous les ordres de l'abbé Bignon, qui lui était le grand bibliothécaire du roi en titre. Donc c'était une petite bibliothèque que l'architecte Gabriel avait aménagée et qui avait été achevée en 1729. Ardion m'amuse beaucoup parce qu'il gardait les médailles du cabinet du roi. Et il a dû se montrer très zélé car on rapporte qu'il a fait administrer des lavements à l'un de ses lecteurs car il le soupçonnait d'avoir avalé un cachet de Michel-Ange et il voulait le récupérer.
En tout cas, j'ai l'impression que celui-ci, Voltaire, ne le portait pas dans son cœur.
Voilà, oui, exactement, oui.
Le 6e titulaire de ce fauteuil numéro 30 de l'Académie française, c'est un poète, Antoine Léonard Thomas. Alors tout de suite, on peut dire que là, ça fait quand même 3 ou 4 noms qu'on énumère, qui ne sont plus très connus aujourd'hui, n'est-ce pas?
Exactement, oui, tout à fait. Mais ce personnage a été étudié d'une part, je reviens encore à cet ouvrage récent d'Hélène Carrère d'Encausse, cause sur l'histoire de l'Académie, parce que c'est le premier qui a osé un petit peu critiquer le souverain, qui ne s'est pas livré à la flagornerie dans son discours, dans sa harangue. Et également, il a été étudié dans une étude récente par Elisabeth Badinter, parce que Thomas a écrit un ouvrage en se demandant ce qu'était une femme. C'est vraiment, on est au début du féminisme, si la femme était de façon native, congénitale, une femme, ou si c'était l'éducation, si savoir si c'était la nature ou l'éducation qui faisait qu'elle était une femme.
Ça devait être intéressant de l'entendre, parce qu'il a reçu de très nombreux prix d'éloquence. On aurait voulu l'entendre sur ce sujet.
Tout à fait.
Mais évidemment, à cette époque, il n'y avait pas Canal Académie, pas de radio. Le 7e titulaire de ce fauteuil, Jacques-Antoine Hippolyte de Guibert, dit le comte Guibert.
Voilà, c'est très intéressant parce que c'est un militaire, c'est un général qui a eu un rôle encore plus important qu'on ne le pensait. Et vous savez qu'il y a aussi une tradition à l'Académie d'accueillir des généraux, des maréchaux. Et il était en même temps auteur dramatique. Et également, il a eu la particularité d'entretenir une correspondance amoureuse avec Mademoiselle de Lespinasse. Et Roger Caillois, qui a étudié le comte Guibert, écrivait dans les années 50 qu'on ne le connaissait que pour cette correspondance, pour ses lettres d'amour. Et maintenant, au contraire, on a redécouvert Guibert et il est reconnu comme un grand tacticien militaire. On pense qu'il a influencé Napoléon Bonaparte dans plusieurs principes de tactique. Et il a écrit un ouvrage qui s'intitule « Essai général de tactique » en 1772, qu'il a publié anonymement à Londres, parce qu'il critique l'armée française. Mais cet ouvrage a été traduit dans l'Europe entière. et même en turc, en persan, parce que c'est un ouvrage novateur.
Comme ça, ils se sont mieux battus les uns les autres. Je vois qu'il a aussi écrit une tragédie sur le connétable de Bourbon. Voilà, mais très intéressant.
Oui, mais il aurait aimé réussir dans les lettres, mais malheureusement, il a eu beaucoup moins de succès avec ses œuvres dramatiques.
Et ce pauvre Guibert, alors, il est juste élu en 1785 et on sait que les académies vont être supprimées en août 1793. Il aura tout de même le temps de prononcer son discours de réception.
Voilà, exactement.
Donc, on va avoir certainement entre 85 et puis après...
Voilà, alors il y a une grande rupture. Alors, oui. Pendant la Révolution, l'Académie a décidé de ne pas remplacer les défunts parce qu'elle était assez maltraitée par le pouvoir en place. C'était une façon pour elle de protester. Et puis après, les académies ont été supprimées en 93. Mais 2 ans plus tard, en 1795, l'Institut a été fondé, composé de classes qui, en réalité, recréaient d'une certaine manière ce qu'avaient été les académies. Mais avec des membres élus et puis en 1803, nommés.
Alors, quel va être le premier de cette nouvelle génération?
Voilà, dans la lignée du fauteuil, c'est Cambacérès, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, le grand homme d'État, le deuxième personnage de l'État sous le Consulat et l'Empire, le grand juriste, législateur. C'est lui qui est élu à l'Institut en 1795 et nommé membre de la deuxième classe, qui est la classe des lettres, en 1803. Et qui sera exclu en 1815, puisqu'il était un pur produit du régime napoléonien. Naturellement, à la Restauration, il a été exclu et il n'a jamais été réintégré. Certains autres académiciens ont été réintégrés, mais pas lui.
Est-ce que Jean d'Ormesson ne s'est pas penché sur son cas ?
Exactement, voilà, dans son dernier ouvrage, La Conversation, tout à fait, Jean d'Ormesson évoque Cambacérès. Tout à fait.
Qui aurait été alors le premier civil à être intime avec le vainqueur de Marengo.
De Marengo, voilà.
Très intime avec Bonaparte et avec le futur Napoléon.
Voilà, très écouté de lui. Et dans les mémoires de Cambacérès, qui ont été publiées récemment, en 1999, avec une préface de Jean Tullard. Donc, ces mémoires sont très intéressantes parce qu'on voit tout ce qu'il pense de l'Institut. Il en est membre, mais il observe l'Institut de l'extérieur, vraiment en organisateur, en homme d'État, en législateur. Et il a très peur des factions, des coteries. Il a déjoué un complot qui visait à rétablir l'Académie. Il va dénoncer le complot à Napoléon, voilà.
Alors, vous avez dit, Mireille Pastoureau, que Cambacérès avait fait partie de la deuxième classe de l'organisation nouvelle en 1803, qu'il en avait été exclu et proscrit par ordonnance royale en 1815. Et donc, son fauteuil a été attribué à quelqu'un d'autre, qu'on peut considérer comme son successeur, bien qu'il n'ait pas été élu.
Exactement. Alors, c'est tout l'opposé, puisqu'il y a eu la fameuse ordonnance de 1816, qui a nommé naturellement des ultra-royalistes, monarchistes à l'Académie. Et c'est le vicomte de Bonald, monarchiste, catholique, traditionnaliste, qui a occupé le fauteuil. Il était issu d'une longue lignée de juristes Rouerga et il fut la grande voix des légitimistes.
On suppose qu'il a proposé des lois un peu traditionnelles.
Voilà, il était contre le divorce, il était le chef de file du traditionalisme. Et malheureusement, il est mort d'une crise d'asthme en 1840.
Alors, évidemment, il proposait une loi sur le divorce, mais vous précisez bien dans votre document que la loi avait été votée simplement pour une séparation des corps, mais finalement, elle n'a pas été appliquée sur le divorce. Le 10e occupant, Jacques-François Ancelot, donc lui, il est élu en 1841. Alors, on revient aux poètes, aux hommes de lettres.
Exactement, mais avec son épouse, la fameuse Virginie, Ancelot, ils étaient tous deux de fervents royalistes, partisans des Bourbons. Donc, un homme de lettres qui a eu 2 parties dans sa carrière. Une partie où donc il était tout à fait en cour et donc ses pièces avaient beaucoup de succès. Et alors après, la révolution de 1830 a ruiné sa carrière et son épouse l'a incité à écrire plutôt des vaudevilles. Donc, c'est pas du tout le même genre de littérature, mais il a retrouvé un public et voilà. Et c'est le salon de Madame Ancelot qui faisait toutes les carrières, toutes les réussites et toutes les nominations à cette époque.
Alors, il faut dire que cet Ancelot va nous rendre bien service parce que pour notre émission Les Académiciens racontent l'histoire, je vois qu'il a écrit sur le Régent, sur la jeunesse de Richelieu, sur Madame du Barry. Donc, on va pouvoir se servir de lui pour alimenter notre émission « Les académiciens racontent l'histoire ».
Très bien.
Le 11e titulaire, c'est Ernest Legouvet, dont lui, le nom nous est resté tout de même.
Voilà, alors poète, romancier, essayiste, mais aussi auteur dramatique. Et alors, il avait la particularité d'écrire des pièces de théâtre en collaboration. Alors, ça lui a été un petit peu reproché, mais c'est assez amusant. Il a notamment collaboré avec Eugène Scribe et avec Eugène Labiche. Donc là, on a affaire à des comédies. C'est assez amusant. Et il avait une autre passion qu'il détaille, c'est l'escrime. C'est assez amusant.
Alors, avec Eugène Scribe, il a tout de même établi le livret Adrienne le Couvreur, qui a triomphé à la Comédie Française.
Tout à fait.
Qui est resté tout de même.
Tout à fait.
L'autre, je ne sais pas s'il est connu, Bataille de Dames. Je ne sais pas quelles sont les dames
si
qui se battent,
se
on ira
rejouer,
regarder.
Oui, je ne sais pas.
Et il a écrit une tragédie sur Médée. Alors, c'est sans doute pour ça qu'on l'a tout de même mieux mémorisé que les autres. Et puis, on va donc maintenant aborder un personnage beaucoup plus connu, un grand romancier, c'est René Bazin.
René Bazin, tout à fait, qui a été élu membre de l'Académie française en 1903, qui est à la fois un juriste, un professeur de droit, un romancier, journaliste, historien, essayiste et auteur de récits de voyage, qui a une œuvre très abondante. Ses romans se situent essentiellement dans le milieu rural et paysan de l'ouest de la France et décrit la lutte du catholicisme et des valeurs traditionnelles contre la ville, le progrès, l'athéisme et la contagion révolutionnaire. Avec Paul Bourget, Henri Bordeaux et Maurice Barrès, il fait partie des 4B, les auteurs de référence des milieux traditionalistes de l'époque.
Il était très attaché à sa ville d'Angers, son grand roman, enfin celui qui l'a véritablement lancé, c'est Les Oberlais. Et on le relit en ce moment, René Bazin. Ses œuvres sont republiées. Il y a une association des amis de René Bazin très dynamique et avec laquelle nous avons fait deux émissions, justement sur Les Oberlais et puis sur Madame Corentine qui se passe en Bretagne. Donc c'était pas sa région, mais il a découvert la Bretagne. Donc on en parle. On a, je crois, aussi une émission sur les Noëlets. Vous voyez, nous refaisons des émissions sur Bazin, c'est pour ça que j'ai l'air très informée.
Oui, mais c'est très précieux.
Cela dit, c'est trois seulement de ces livres sur une liste que vous avez citée dans votre document, qui est extrêmement abondant.
Oui, très abondant.
Il a beaucoup, beaucoup publié. Oui. Le 13e titulaire de ce fauteuil, j'ai le nôtre. Alors, ce n'est pas Gaston le nôtre, ce n'est pas le pâtissier, il ne faut pas confondre.
Oui, exactement. Il s'appelait en réalité Théodore Gosselin et il a choisi comme nom de plume le nôtre, mais sans accent. Et le G devant le nôtre, c'est l'initiale de son vrai patronyme qui est Gosselin. Donc, c'est j'ai le nôtre, sans accent, élu membre de l'Académie en 1932. Mais alors, il n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'il a été élu à l'âge de 77 ans. Il a un petit peu tardé pour écrire son discours qu'il fignolait et il est décédé avant de pouvoir prononcer son discours de réception. Mais c'était un historien, je crois, très apprécié. Bon, on a dit qu'il se livrait à la petite histoire, mais il avait le culte du détail, des documents, des sources et il a mis à jour quantité de choses très intéressantes, notamment sur la période révolutionnaire, le Paris révolutionnaire, la guillotine, les noyades de Nantes.
La mort de Marie-Antoinette, c'est le moment d'en parler maintenant que sort le film, justement.
Exactement, tout
et
à
aussi
fait.
Les Chouans, etc.
Oui.
Donc
oui.
Ça, lui aussi, on va s'en servir pour notre émission « Les académiciens racontent l'histoire ». Le 14e titulaire, lui, est très connu, même si on le lit peut-être plus guère aujourd'hui.
Oui, et il sera sans doute redécouvert dans les années qui viennent. Il s'agit de Georges Duhamel, qui a été élu membre de l'Académie en 1935. Il était
de l'Académie des sciences morales et politiques. En
1944,
ah oui,
et
ça.
De la française en 1935.
Ah oui, d'abord à la française et après, généralement c'est l'inverse.
Oui, lui,
il fait ça.
Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie française pendant l'occupation. Et en 1942, l'Académie n'était pas assez nombreuse, le quorum n'était pas atteint et il n'y avait pas le chef de l'État pour approuver l'élection. Donc, les académiciens l'ont élu provisoirement secrétaire perpétuel. Madame Kahanankos explique ça très bien dans son livre. J'ai beaucoup pillé son livre. Donc, de 1942 à 1944, il a été provisoire. Puis, en 1944, il a été secrétaire perpétuel en titre. Et en 1946, il a démissionné parce qu'il était épuisé par toute cette charge et la tournure.
Il ne peut pas être facile,
La tournure des événements, et c'était quelqu'un d'extrêmement honnête, extrêmement digne. Son œuvre avait été interdite sous l'occupation par les Allemands.
Il a dû souffrir puisque il était pacifiste.
Exactement.
Donc, cette occupation, plus que d'autres, intellectuellement, a dû aussi le faire beaucoup souffrir.
Oui, tout à fait.
Et il a dû peut-être modifier son point de vue quand il a vu, à partir de 1939, qu'il fallait peut-être cesser d'être pacifiste pour devenir plutôt anti-nazi, évidemment.
Exactement. Et Mme Karadenko souligne qu'à l'Académie, en tant que secrétaire perpétuel, il a fait preuve d'une autorité ferme, mais attachée à ne pas diviser. Et ça, c'est très important dans une Académie.
Je crois aussi qu'on lui doit d'avoir été président en 1947 de l'Alliance française qui diffuse la culture française un peu partout dans le monde.
Oui, il a fondé à nouveau beaucoup d'écoles, de nombreuses écoles de l'Alliance française. Il a beaucoup voyagé, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant aussi chez lui, j'ignorais, c'est que sur le tard, il a découvert la musique en autodidacte. Il a appris le solfège et la flûte tardivement. Et il dirigeait chez lui, entre amis, des concerts hebdomadaires à son domicile.
C'est un aspect qui le rend effectivement extrêmement sympathique. Son successeur sur ce fauteuil numéro 30, eh bien, nous le connaissons encore tous, c'est Maurice Druon qui nous a quittés malheureusement en 2009, mais qui avait été élu en 1966. Il est resté longtemps à l'Académie française.
Oui, exactement. Son oncle, Joseph Kessel, était déjà à l'Académie avant lui. Oui, c'est une très, très grande figure de l'Académie. Nous l'avons connu, très intimidant. Je veux dire que j'ai repris la notice de l'annuaire de l'Académie française. Dans mon petit catalogue, je ne me risquerais pas à écrire une biographie de Maurice Druon.
Mais vous l'avez croisé de nombreuses fois, bien sûr.
C'était un ami de la bibliothèque, il nous a beaucoup aidés, tout à fait.
Et restait aussi son roman, qui avait d'ailleurs reçu le prix Goncourt en 1948, c'est Les Grandes Familles. Dans Les Grandes Familles, il a des phrases très lapidaires, très intéressantes. Et puis, je crois qu'il avait été distingué par de très nombreuses académies étrangères aussi, américaines notamment. Et puis, bien sûr, Les Rois Maudits, passer sous silence.
Oui, et puis, on se souvient de ses discours sous la coupole pour défendre la langue française, toujours très véhément.
Et maintenant, ce fauteuil va être occupé par Daniel Salnave, qui est un écrivain, mais qui a une forte personnalité, si j'ai bien compris.
Membre du prix Femina, notamment, et de plusieurs prix littéraires.
Mais qui est aussi journaliste, qui a été aussi professeur, je crois, qui a enseigné. Et donc, Daniel Salnave, vous pouvez entendre sur Canal Académie la retransmission intégrale de sa réception sous la coupole. C'est donc le 29 mars. Et puis, d'autres interviews qu'elle a bien voulu nous accorder. Je remercie Mireille Pastoureau. Ce document qui nous a servi à dialoguer autour de ces occupants du fauteuil, ces titulaires du fauteuil, c'est un document que vous pouvez télécharger ou consulter sur le site de la Bibliothèque de l'Institut de France. Merci Mireille Pastoureau. À bientôt pour un autre fauteuil.
Il y en
aura certainement. Et les 10 autres fauteuils sont disponibles sur Canal Académie à l'écoute et au téléchargement.